18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Merci d'écouter nos programmes. Le journal en français de ce mercredi 30 septembre 2020, c'est dans une présentation de Nafissa Adom Sirfo. Les titres. Clôture hier du dépôt des dossiers de candidature aux élections locales prévues pour le 13 décembre 2020. Dans cette édition, nous ferons le point à Zender avec le secrétaire général du gouvernorat. La vidéosurveillance sera bientôt réglementée au Niger, c'est ce qu'a indiqué au studio Kalangou le secrétaire général de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. Le magazine de ce journal nous édifiera sur l'importance de la participation des femmes dans le processus électoral au Niger. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est hier 29 septembre à minuit qui était la date butoir pour la réception des dossiers de candidature aux élections locales prévues le 13 décembre 2020. Au gouvernorat de Zender, l'affluence était assez importante encore hier, à quelques heures de la clôture, souligne Maman Harou, secrétaire général du gouvernorat de Zender.
Les choses se passent normalement pour ce qui concerne la ville de Zender parce que notre tâche consiste à recevoir les dossiers des arrondissements communaux de la ville, mais aussi des élections régionales. Et nous sommes répartis en 7 groupes et chaque groupe a la responsabilité de recevoir les dossiers d'une circonscription. À partir de minuit, tout celui qui ne dépose pas son dossier, ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'est pas partant pour les compétitions, en tout cas de 2020. Nous, notre mission, on va recevoir des dossiers, on va contrôler leur conformité et on les transmet au niveau du tribunal et statuer sur certaines questions. S'il y a des dossiers qui sont pendants à la justice, ça, ce n'est pas de notre ressort. Les partis se plaignent de ne pas pouvoir avoir certaines pièces qui sont parties intégrantes du dossier, notamment les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, mais du reste, cela n'est pas un problème pour nous, parce que nous nous sommes dit que les partis doivent apporter, en tout cas les dossiers, même s'il y a des pièces manquantes, nous on les prend et ils ont la période de traitement de ce dossier-là pour les compléter avant leur transmission au niveau du tribunal.
Cette année, la région d'Agadez a enregistré un nombre important de cas de paludisme avec plus de 27 000, dont 50 morts liées au palu, a déclaré le chef du service information sanitaire d'Agadez. Selon lui, la situation est en train d'être maîtrisée par la direction régionale de la santé publique DRSP. Suivons à cet effet les explications de Mamoudou Malam Adam, responsable du programme du service programmation information sanitaire d'Agadez au micro de Tila Amadou.
Cette année encore, ça a rebondi parce qu'il y a eu des inondations. Nous sommes remontés toujours pour la période du 1er janvier au 29 septembre à 27 167 cas, avec 50 décès que nous avons enregistrés. Donc la situation est en train d'être maîtrisée, mais déjà avec nos partenaires, il y a eu des requêtes qui ont été élaborées et transmises, notamment dans le cadre de la riposte à l'inondation. Il y a un plan régional qui a été élaboré, qui a été soumis, et ce plan a déjà connu, à travers l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la santé publique, déjà un début de réponse parce qu'il y a un stock de médicaments qui est déjà arrivé, qu'on a mis en place au niveau des différents districts. Il y a également d'autres partenaires qui sont en train de réagir, notamment Hettemet, qui a vraiment dans le cadre de la lutte contre le paludisme, un médicament pour pratiquement 10 structures de CSI qui sont actuellement en train d'être ravitaillés.
Le nombre important des personnes accompagnant les malades et l'insuffisance des agents dans le centre de santé d'Ingal, région d'Agadez, constituent des problèmes majeurs pour la prise en charge des malades, notamment du paludisme. C'est ce qu'explique Dr Kokari Hussein Ibrahim, médecin-chef du district sanitaire d'Ingal, au micro de Moussa Maman.
Comment imaginer, dans une situation de paludisme, un seul malade accompagné par 5 à 10 personnes, quand tu rentres aussitôt, tu as l'impression que le CSI est rempli de monde? Je pense que la situation est sous contrôle parce que nous avons reçu vraiment un appui important des autorités sanitaires, des autorités locales et au niveau régional aussi. Tout récemment, même avec le nouveau recrutement, il y a des agents qui ont été affectés pour renforcer l'équipe. Il faut se dire qu'à Ingal, nous avons au moins 1 CSI. Dans nos 11 CSI, il y a 7 CSI qui sont tenus par un seul agent. Et en cette période de palu où les gens arrivent, un seul agent, comment il peut contenir tout le monde? C'est vraiment difficile, mais quand même on arrive à tenir le coup. Donc c'est un peu ça la difficulté, quand les gens viennent, ils pensent qu'on est débordé. Parce que il n'y a pas de bloc, on n'a que quelques salles de mise en observation. Et on était obligé d'agrandir avec les hangars.
Des jeunes activistes se sont engagés à apporter leur assistance aux personnes sinistrées des inondations, particulièrement des communes 4 et 5 de Niamey. En effet, à travers leur page Facebook, ces bénévoles lancent des SOS et un soutien aux familles touchées, comme c'est le cas d'Ahmed Ali Founa, qui indique qu'à la date d'aujourd'hui, plusieurs Nigériens, dont ceux de la diaspora, se sont manifestés. On l'écoute.
Ce qu'on fait, on aide les gens sinistrés. Et dès qu'ils sont en besoin de quelque chose, ils nous appellent. Et nous aussi, on lance nos appels sur les réseaux sociaux. C'est ça notre force en même temps. Comme déjà parmi nous, là, tout le monde a son compte Facebook et tout le monde dépasse 5000 personnes. Et les gens vraiment ont donné de l'eau, nourriture. Là, des fois, c'est de l'argent. Et ça aussi, on a fait plus de 14 hangars pour les sinistrés. Et des fois, il y a des ONG qui viennent en aide aussi et qui nous appellent. Des fois, on part montrer l'endroit aux gens pour faire leurs dons eux-mêmes. Et des fois, il y a des gens qui ont confiance en nous, qui nous donnent ça. Et nous aussi, on part distribuer ça. De 10h à des fois 20h, on est sur le terrain avec les sinistrés.
Au Niger, la vidéosurveillance n'est pas réglementée, a déclaré Seyni Gado Moussa, secrétaire général de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. Toutefois, au niveau national, des réflexions poussées ont été menées pour régir ces outils. Seyni Gado Moussa explique au micro de Adam Dawaki.
Le recours à la vidéosurveillance est une forme de traitement de données personnelles. Il y a des règles minimales de base qu'il faut dès à présent respecter, même s'il y a un certain vide juridique. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un mécanisme de vidéosurveillance au niveau de votre domicile ou bien de votre service sans pour autant avoir la nécessité de préserver la vie privée des gens. Donc, il faut préalablement informer les usagers. Il faut quand même que vous sachiez que vous êtes filmé. Quand le dispositif sera mis en place, notre contrôle va commencer à travers cela d'abord. C'est pour vous dire que le fait de faire circuler certaines images recueillies à travers les vidéosurveillances doit être conforme à la loi. Même si c'est pour des besoins, par exemple, d'enquête policière, cela doit être réglementé. Il y aura très bientôt une loi qui va régir la vidéosurveillance.
Les populations des villages impactés par la construction du troisième pont attendent toujours d'être mises dans leurs droits. Elles l'ont fait savoir à travers une manifestation le lundi dans le village de Kourtere-Boubacar. Selon elles, il y a une injustice et une lenteur dans la manière de les dédommager. Manga Bourema, l'un des délégués des propriétaires terrains, explique.
C'est la population de ces trois villages, Kourtere, Samboro, Yanene, Gungu et Kourtere, Boubacar, qui ont manifesté par rapport au paiement du dédommagement des impactés du troisième pont. Parce qu'il y a d'autres qui ont été payés totalement, il y a d'autres qui n'ont rien eu jusqu'à ce point. On a perdu tout parce que c'est nos terres qu'on cultivait, on faisait tout. Et ça a été pris et puis jusqu'ici, rien n'a été fait. C'est surtout les champs et les jardins qui n'ont pas été payés. Mais sinon, les concessions sont payées. Le coordinateur du troisième pont était venu nous chercher. Bon, on est parti au ministère. Ils nous ont dit qu'il y a une petite somme de 115 millions qui est disponible dans leur compte. Bon, ils ont dit qu'ils vont essayer de nous donner ça le temps qu'eux-mêmes j'ai un autre versement au niveau du trésor dans leur compte. Ils nous ont dit la première semaine du mois d'octobre.
Pour adopter les bons comportements dans la circulation routière et à respecter les principes du métier, environ 1000 chauffeurs de taxi et de minibus appelés Fab Faba ont été formés du 21 au 27 septembre à Niamey. Gamache Mamoudou, secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxi, nous explique au micro de Olivia Sokbavi.
L'objectif principal, c'est adopter les bons comportements de la circulation, de l'insalubrité et la sécurité routière. Et il y a certains comportements des taximans dans la ville de Niamey, le non-respect de la circulation, par exemple, le non-respect des usagers, le non-respect, en tout cas, des passagers. Et donc, tout ça réunit et fait en sorte que l'activité que nous menons, les gens la voient de mauvais œil. Pourtant, c'est une activité vraiment qui est très importante, en tout cas sur le plan économique, sur le plan social. Donc, il y a aussi certains taximans qui sont complices de certains malfrats pour causer certains actes qui ne sont pas de nature à la guichir, quoi.
Dans le cadre de notre série sur la voie de l'amour chez les jeunes au Niger, voici le témoignage de Daniel, 14 ans. Il est élève en classe de 3e dans un collège de Niamey.
Je suis tombée amoureuse à l'âge de 14 ans. J'étais en troisième. Au moment de la vue, elle m'a impressionnée, mais au début, je ne savais pas comment la dire ça. J'ai parlé de ça à la maman. Au début, elle n'avait pas voulu parce qu'elle disait que j'étais en troisième en classe d'examen, que ce n'est pas bon parce que d'habitude, les copines empêchent l'étude. Mais après, elle m'a un peu compris, elle m'a donné des conseils. J'étais partie, je lui ai vraiment dit tout ce que je ressens pour elle. Elle a accepté et on a continué la relation ensemble. Elle était en quatrième. Je crois que j'étais trop jeune, mais l'amour n'a pas d'âge aussi. Moi, si je choisis un âge pour tomber amoureux, c'est 18 ans. Parce qu'à 18 ans, la personne est un peu adulte. Je compte me marier à 28 ans. Comme ça, je peux subvenir aux besoins de la famille.
Les jeunes témoignent. Une production de Studio Kalongo.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, le magazine de cette édition, dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales au Niger, la participation politique de la femme est mise en avant par plusieurs structures, notamment féminines. Pour ces organisations, les femmes sont des participantes égales dans la mise en place d'institutions démocratiques solides dans le pays. Alors, comment expliquer l'importance de la participation des femmes dans le processus électoral? Réponse avec Amina Boukari, chef de projet ONG FAD Femmes Action et Développement, au micro de Abdoulaye Aoussouk.
Pourquoi la participation politique des femmes au processus électoral?
Alors, la participation des femmes au processus électoral est importante car nous estimons que leur participation va permettre d'organiser des élections apaisées et transparentes.
Quels sont les freins à la participation massive des femmes au processus électoral?
Les freins principalement, pour la plupart évoqués par les femmes elles-mêmes, c'est l'insuffisance de formation sur le processus lui-même, puisque certaines femmes ne connaissent pas vraiment de quoi il en ressort, donc elles ne peuvent pas participer qualitativement. Il y a aussi, d'après ce que j'ai eu à relever, le faible niveau d'instruction de ces femmes. Il y a aussi une certaine marginalisation des femmes qui ne sont pas totalement impliquées. Certes, peut-être parce qu'elles ne sont pas suffisamment formées, c'est aussi une des causes.
Vous, à votre niveau, quelles sont les mesures prises pour accompagner ces femmes?
Pour accompagner ces femmes, nous formons la plupart des femmes de manière générale, comme à travers cet atelier-là sur le processus électoral, pour s'assurer qu'elles seront actives et qu'elles vont s'impliquer dans l'organisation des élections à venir, des élections actuelles.
Selon les femmes que vous avez pu entretenir avec elles, qu'est-ce qui les empêche de participer au processus électoral?
La plupart des femmes évoquent l'insuffisance de formation. Elles veulent participer, mais elles ne savent pas vraiment comment y participer. Donc nous espérons qu'à travers nos formations et les sensibilisations que nous faisons, on pourra renforcer leurs capacités et elles pourront participer qualitativement.
À travers vos échanges avec ces femmes, est-ce que vous êtes satisfaite?
Oui, je suis pleinement satisfaite de leur niveau parce que vraiment, du début de l'atelier à actuellement, il y a une nette amélioration de leurs compétences en matière de processus électoral. Après cet atelier, nous attendons de cette femme déjà qu'elle restitue auprès de leurs consoeurs les acquis qu'elles ont eus lors de cette formation. Et nous espérons aussi qu'elles vont s'impliquer dans le processus électoral et ne plus rester en arrière en accusant les autres de ne pas les impliquer.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Cap sur Gaïa, région de Dosso pour le forum d'aujourd'hui avec pour thème quel apport du district sanitaire et des écoles de santé de Gaïa dans l'amélioration de la santé des populations. Et c'est avec Fadela Lou.